récemment, concernant des journaux anglais, en fait, depuis quelques semaines, il y a eu des articles qui étaient dirigés à l'endroit de Obama, qui est maintenant, bon, le futur président qui a été élu le 4 novembre. Ça ne change pas la situation aux États-Unis. En ce moment, les gens qui étaient plutôt pleins d'espoir pour Obama sont toujours avec de l'espoir, mais disons que la situation économique est très précaire. Donc les gens se disent « oui, Obama, oui, peut-être, ça va aller mieux ». C'est ce que les gens croient, mais ils sont pas sûrs. Puis là, ben, on entend parler de différents groupes qui voudraient tuer Obama. Donc là, la deuxième fiche, s'il te plaît, Luc,
ouais.
Tu peux aller à la deuxième. Donc, qui veut la peau d'Obama? Donc, vous voyez, il y a les sympathiques KKK, le Ku Klux Klan, un terroriste, ou peut-être, en bas à gauche, peut-être des financiers qui sont devenus fous. Parce qu'ils sont en train de tout perdre. Donc, point d'interrogation. Qui veut la peau d'Obama? Ben, c'est ni un ni l'autre de tous ces cas-là. En fait, comme je disais auparavant, c'est vraiment une tactique qui a été utilisée historiquement pour se débarrasser des présidents américains qui faisaient le bon travail. Ça venait pas de groupes terroristes comme Al-Qaïda, ça venait pas de petits groupes insurrectionnaires armés comme pendant la guerre civile, c'était pas ça. Et là, ça m'amène à la troisième fiche. Ça m'amène à la question de l'Empire. Parce que ce qui définit les dernières centaines d'années, depuis la Renaissance, et même avant ça, mais pour s'en tenir aux dernières 500 années, ce qui définit la bataille, c'est ce qui définit notre histoire, c'est la bataille entre l'Empire, comme on voit le premier drapeau sur la surface, c'est le drapeau de la Compagnie des Indes orientales de l'Empire hollandais, dans le Dutch East India Company. Et puis, bon. Après ça, on peut voir en haut le Union Jack. Bonjour aux nouveaux arrivés. Donc, le Union Jack qui représente en fait l'empire qu'on a eu jusqu'à présent, qui est l'empire britannique. Et donc, je disais, l'histoire dans laquelle on se trouve en ce moment, elle a été formée dans une bataille sur les idées de l'Empire contre la République. Et donc, pourquoi il y a des menaces de mort qui sont en train d'être proférées contre Obama de la part des médias britanniques au départ, et après ça qui sont relayés partout à travers le monde? Ben, c'est parce que c'est pas parce que Obama est nécessairement le sauveur. C'est pas parce que lui va changer le monde entier. Mais c'est parce que il y a une institution aux États-Unis, qu'on n'a pas au Canada, une institution qui, en fait, travaille à essayer de restaurer les idées de la République. Et c'est de cette institution-là que LaRouche fait partie. Donc, la bataille, LaRouche l'a exprimée de plusieurs manières, mais à plusieurs reprises. Et c'est vraiment celle-là. C'est l'Empire contre la République. Et c'est l'idée qui est... c'est la différence si vous voulez, ontologique entre l'être humain et la bête. Et donc, allons à la quatrième fiche. Donc, vous voyez, j'ai fait un espèce de montage de différents présidents américains qui ont été assassinés par des forces qui étaient directement britanniques. Et là-dessus, il y a un document que j'ai ici, qui a été écrit par, par différents membres de l'organisation, qui s'appelle « Why the British Kill American President ». Donc, je pense que vous le voyez ici à l'écran.
This is a leaflet.
Can you see it?
Yeah.
That's a pamphlet that we put out.
A long time.
Ça, c'est un pamphlet qu'on a en 94. On explique justement les assassinats et comment ils ont été préparés pour détruire, en fait, l'optimisme culturel qui existait à l'époque aux États-Unis. Et donc, ça a commencé avec Abraham Lincoln, qu'on voit en haut à droite, l'assassinat de Lincoln en 1865. Après ça, en bas à droite, c'est James Garfield, qui a été assassiné aussi, lui, aux alentours de 1881. En haut à gauche, vous avez McKinley. Si je ne me trompe pas, James McKinley. Et ça, c'est en 1901. Et bien sûr, vous reconnaissez tous, en bas à gauche, John F. Kennedy.
You can use the mouse to...
Donc, à chaque fois qu'il y a eu un représentant, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu des présidents qui revenaient constamment à la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine. Et dans les textes fondateurs des États-Unis, c'est là où se trouve vraiment la richesse des États-Unis. Dans le sens que c'est là où ça met l'importance sur l'individu humain créateur, qui est en fait appelé à, justement, dans les temps normaux, se développer et être créateur, et dans les temps, si vous voulez, d'adversité, à justement restaurer la justice. Et donc, les quatre présidents que vous voyez sur la fiche là, ont été justement des présidents qui étaient directement américains, mais dans l'esprit de la Constitution américaine. Parce qu'il y a des présidents qui étaient américains, qui sont nés aux États-Unis, mais qui étaient plutôt britanniques. Et, par exemple, comme Theodore Roosevelt. Et donc, il faut revoir, justement, parce que c'est la bataille entre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui a aussi défini l'histoire du Canada. Je n'irai pas trop là-dedans pour aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler qu'en ce moment, les États-Unis sont dans une crise, le monde est dans une crise financière d'une magnitude qui n'a jamais été vue auparavant. Et c'est important de se rappeler, mais qu'est-ce qui nous a bâti? Qu'est-ce qui a fait de nous une nation qui était forte? Aux États-Unis, il y a encore une certaine culture sous-jacente qui a été oubliée. L'Américain moyen ne s'appelle plus trop pourquoi, mais c'est encore là. Au Canada, ben, on sait qu'on n'est pas américain. Donc, on se différencie d'une autre manière, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui nous a bâti. Et donc, ben, ça m'amène à la cinquième fiche, pour regarder la crise, regarder un peu le squelette de ce qui se passe. Vous voyez, en haut à gauche, là, c'est un graphique qui a été mis ensemble sur la chute du Dow Jones dans les années 30. Alors, à partir du ce qu'on a appelé le crash de 1929. Donc, vous voyez, c'est quand même assez dramatique comme chute. Mais si vous regardez où on en est maintenant, Là, vous voyez que les dimensions ont changé. C'est plus du tout la même chose. En termes de magnitude, là, on parle... c'est plus dans les centaines. C'est dans une dizaine de milliers de points qui sont en train d'être perdus. Cela étant dit, le marché financier n'est pas vraiment un bon indicateur pour comprendre une crise financière. Ça me donne une certaine idée de comment les gens qui jouent à la bourse se comportent, ou comment ils sont très pensés, s'ils sont suicidaires ou pas. mais ça ne donne pas nécessairement l'idée de pourquoi l'économie va mal. Sixième fiche, s'il vous plaît.
Pardon?
Ça peut aller la sixième fiche. Je pense qu'on y est. C'est la triple courbe de Larouche. Et ça, c'est une courbe qu'il avait créée pour pouvoir enseigner l'économie lors d'une conférence au Vatican dans les années 90. Celle-là, en fait, c'est la deuxième. C'est pas celle qu'il avait montrée au Vatican, mais c'est une deuxième qui a été amenée dans les années 2000 pour exprimer justement le point de rupture où, en fait, vous voyez la flèche qui encercle. Ben, il y a les deux cercles et il y a la flèche qui relie les deux cercles. On voit vers le haut les agrégats monétaires et agrégats financiers qui augmentent d'une manière exponentielle. Et en dessous, il y a l'économie physique. Et ce qu'on entend par là, ben, c'est l'investissement dans l'infrastructure, ponts, routes, hôpitaux, éducation, tout ce qui est nécessaire, en fait. Tout ce qui est physiquement requis pour qu'une société puisse justement s'épanouir. Et là-dedans, ce que Larouche montrait avec la triple courbe, c'est que justement, ben, l'économie physique, on n'a pas investi depuis un petit bout de temps. On n'a pas investi là-dedans en termes de recréer même les infrastructures qui étaient là il y a 30 ans. On n'a pas investi. On a plutôt décidé, justement, comme le graphique auparavant nous montrait, on a décidé d'investir à la bourse et là, on est en train de tout perdre. Dans les fonds de pension, on est en train de perdre beaucoup. Et donc, la vision de Larouche de l'économie, c'est une vision qui est réelle, qui est physique. C'est pas à propos de l'argent. Et c'est ce que les gens semblent oublier en ce moment au Congrès américain, à la Réserve fédérale et puis au Trésor américain. Hank Paulson ils ont commencé ça depuis déjà le mois d'octobre, où ils ont amené le grand renflouement de 700 milliards de dollars. Ça, c'était un début. Ce n'était pas la fin. Et là, on voit que la crise n'a justement pas de fin. Parce qu'il faut toujours qu'ils en mettent plus et plus et plus. Plus d'argent. Plus de liquidité. Donc là, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'appeler à justement avoir plus de liquidité dans le système. Un dénommé, je crois, Stephen King de l'Angleterre qui dit ben, « Oui, ça pourrait causer une crise. » comme on l'a vu à Weimar en 1923, ou comme on le voit en ce moment au Zimbabwe. Mais on est dans des temps exceptionnels, donc il faut se mettre à imprimer de l'argent. Il faut en imprimer beaucoup, 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 toujours plus. Cette logique-là, c'est la même logique qui nous a amené dans la crise, donc pourquoi est-ce qu'on continuerait à faire ça? Et donc, il y a une certaine mentalité où, en fait, la seule manière de s'en tirer, ça va être de justement changer notre action, de voir, mais qu'est-ce que l'argent, vraiment? À quoi ça sert? Et vous allez peut-être pouvoir faire le pédagogique avec Bob plus tard, mais si vous étiez en train d'amasser des centimes et que vous essayiez de les mettre en pile, les uns par-dessus les autres, eh bien, vous pourriez vous rendre avec le nouveau, avec la dette qui existe en ce moment au niveau des produits dérivés, vous pourriez vous rendre du Soleil jusqu'à Jupiter. Et même, je crois que c'est entre Jupiter et Saturne. Donc, on parle de quadrillions de dollars. C'est plus des millions, c'est plus des milliards, c'est plus des trillions. C'est des quadrillions de dollars. Mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'acheter avec ça? Il y a des gens qui ont des suggestions? Qu'est-ce qu'on devrait acheter avec
un train?
Tout cet argent.
Beaucoup de trains.
Des trains?
OK. Mais le problème que vous avez dû voir dans vos cours d'économie, parce que tout le monde a dû faire un cours d'économie, j'imagine, ben quand on se met à imprimer de l'argent, forcément, plus il y a de l'argent, moins ça a de la valeur. Donc, en ce moment, on est dans un processus où, oui, depuis quelques jours, deux semaines environ, les prix ont descendu de manière drastique. Je ne sais pas à Montréal en tant que tel, j'imagine, je déduis que ça a été c'est la même situation pour vous. Mais ici, on a vu les prix de l'essence passer de 2,30$ à, c'est pour le gallon, 2,30$ à, en ce moment, c'est à 1,60$. Donc, ça a chuté d'une manière assez drastique. Là, tout le monde était content. Ah, c'est la fin de la crise. On va pouvoir mettre de l'essence dans notre véhicule sport utilitaire. On va pouvoir faire tout ce qu'on faisait avant. Il n'y a plus de crise, tout va bien. Je vous réfère à la conférence que Raouf a donnée à Washington il y a une semaine et demie, où justement, il en parlait. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a eu les financiers, les différentes institutions financières qui jouent justement avec ces quadrillions de dollars de faux argent, ont été capables de retarder pour l'instant une tendance qui en fait serait totalement hyper-inflationniste. Donc ils ont été capables de retarder. Mais là, en ce moment, ce qu'on voit avec justement les paroles de gens comme Stephen King et autres, et les actions de Hank Paulson ici aux États-Unis, ça laisse envisager que justement, ben, en ce moment, ils ont décidé de détruire tout le système bancaire américain. Ils ont décidé de détruire tout le système bancaire et d'aller pour l'hyperinflation, pour... ça va être la loi du plus fort, ça va être la loi de la jungle. Donc, maintenant, on peut passer à la dernière. Je ne vais pas nécessairement discuter tant que ça.
Est-ce qu'elle a de l'air, la dernière?
Ouais, ça, c'est la dernière. C'est bon. Donc, là, en ce moment, ben, ce qui est en face de nous, c'est l'enfer. Mais on n'est pas obligé d'avancer dans cette direction. On peut en fait décider de ne pas choisir l'enfer. Et je pense que ce serait le bon choix. Maintenant, l'idée, c'est de voir, mais qu'est-ce qui nous a empêchés jusqu'à aujourd'hui de justement changer le cours des événements? Et c'est vrai que c'est une question qui est une question de l'ensemble, de la société, où on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on pense dans différentes parties du monde, et en général, mais aussi, c'est une question qui est très personnelle. Ça veut dire, ben, face, en fait, à une situation qui est dramatique, dans le fond, une crise qu'on voit amplifier jour après jour, face à ça, qu'est-ce qu'un individu peut faire pour justement changer le cours de l'histoire? Et c'est là que l'existentialisme devient le frein. C'est-à-dire la personne qui va s'en faire plus pour sa personne et qui ne croit pas pouvoir changer grand-chose va devenir un tragédien, va devenir tragique. Pas parce que la personne en tant que telle, elle-même, est née tragédienne, mais parce que elle va laisser aller les erreurs, elle va pas essayer de s'interposer ou de changer la donne. Et c'est là où il faut justement être sérieux, il faut rentrer dans la bataille. Donc, je voulais vous donner ça, j'espère que ça... Je vais faire ça court, d'une certaine manière, où on pourrait discuter un peu, et puis vous laisser travailler, parce que je veux que vous travailliez ces idées-là plus en profondeur. Donc, je vais prendre des questions, si vous en avez. Puis, vous avez vu que j'ai encerclé le petit bonhomme en bas à droite, ça c'est vous.
qui est l'artiste de...
C'est Bruegel, Peter Bruegel. C'est le triomphe de la mort. C'est le triomphe de la mort.
Pourquoi tu dis que nous, c'est le Brahm?
Ben, c'est le personnage en bas à droite. Celui que j'ai encerclé en rouge, c'est un personnage qui semble hésiter, mais qui est en train de lutter à l'intérieur de lui-même, est en train de lutter à voir qu'est-ce que j'attaque, qu'est-ce que je fais, est-ce que je sors mon épée de l'étui ou quelle action est-ce que je devrais prendre face à l'horreur qui est en face de moi. Est-ce que j'aimerais aller frapper George Soros ou qui en premier?
And what year is this? À quelle année est-ce que ce peinture est fait?
16e siècle, 16th century, I think. Vous pouvez trouver ça, juste taper Bruegel et puis vous allez trouver la toile très facilement.
Une des raisons pourquoi il a fait des peintures, parce que les gens ne savaient pas comment lire et écrire. C'est-à-dire que ça c'est pas une art moderne, ça c'était une œuvre qui était mise dans l'église. Et c'était partie de différentes peintures dans lesquelles les gens vont regarder la peinture et vont discuter la Bible. C'était comme les Bibles illustrées. Parce que les gens ne savaient pas comment les lire. Ce qui se passe, tu vas lire une histoire, et après ça, tu vas regarder la peinture, et tu vas voir ça comme un médium, comme un moyen pour comprendre l'histoire. Parce qu'avant de gagner la bataille, tu devrais gagner la bataille en toi-même. Tu devrais prendre une décision de te battre. Et c'est ça qu'il dit, parce que la personne, ça c'est le point d'hésitation entre il regarde autour de lui-même, il vient de jouer des cartes avec les autres gens, il joue de poker, il joue des hasards, Et une fois, la table, elle se tourne, tout vient se détruire. Et lui, il regarde tout le monde, et maintenant, il est choqué. Ce qui se passe, qu'est-ce que je devrais faire? Ce qui se passe, est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut renverser notre joue et se battre pour la survie? C'est-à-dire, l'hésitation, le moment historique qu'on se trouve, la population qu'on rencontre chaque jour, c'est vraiment cette position, être juste un observateur. Mais la population n'a pas pris encore la décision pour se battre. C'est-à-dire, on vit un moment dans lequel le changement historique arrive. Et la question, c'est est-ce que les gens vont décider d'en grandir et bâtir? On va se soumettre et on va décider de se battre juste pour lui-même et perdre. Mais Pascal, moi j'ai une question. Tu es maintenant en Détroit, toi?
Oui.
Est-ce que tu peux nous donner un rapport qu'est-ce qui se passe avec le collapse du secteur de l'automobile, des manufactures, les pauvretés? Quelle est la situation économique aux États-Unis dans Détroit? Parce que c'est quand même une des anciennes capitales de la voiture. Et
oui.
Ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent là qui sont intéressantes.
Oui, ben, le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant a été un travail beaucoup autour des puces. On n'a pas fait tant de travail autour des, si tu veux, des unions comme le UAW. Mais c'est clair, je veux dire, quand on va déployer, on va pas déployer dans Détroit, dans la ville. Détroit, il n'y a presque plus rien qui se passe à Détroit. C'est une ville fantôme. Puis quand on va là, je veux dire, il y a seulement quelques tours et un casino. On a des gens qui veulent, qui passent à Détroit, qui veulent aller au casino. Et après ça, c'est, il n'y a plus grand chose. Donc on va déployer dans les alentours de Détroit. Mais Détroit, en tant que tel, a perdu énormément de, mais comme tu le disais, c'était, je veux dire, pour donner une idée aux gens, Détroit et Baltimore, c'était les deux listes qui étaient sur la liste de Hitler à détruire. Parce que c'était de là que la production militaire américaine. Baltimore et Détroit, c'était le noyau, en fait, de ce que Franklin Roosevelt appelait l'arsenal de la démocratie. Et donc, aujourd'hui, de voir justement à quel rythme les emplois ont été perdus à Détroit et qu'il n'y a plus aucune production qui subsiste. Je veux dire, ils coupent encore des milliers de jobs, des milliers d'emplois à Détroit dans le secteur automobile. Mais déjà, le secteur automobile n'existe plus vraiment. Aussi, ça se reflète dans, c'est sûr, dans la population. Il y a toujours une certaine capacité dans le sens. Les gens croient que le changement peut arriver, sauf que ils n'ont pas vu un changement dans les dernières années. Ils disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change. Donc c'est là où il y avait toute l'ivresse autour d'Obama. Mais les gens, il y a un certain pessimisme qui s'est inséré dans la population et qu'on voit chez les jeunes. En ce moment, on a rencontré différents jeunes autour des universités dans la proximité du centre-ville de Détroit. Et c'est toujours ça qui ressort, en fait. C'est le pessimisme. Il y en a un qui me disait, mais tu sais pas comment c'est lui à Détroit. Tu sais pas comment c'est difficile, c'est chiant de vivre à Détroit. Il n'y a plus rien. Et je disais, ben ok, qu'est-ce qu'on devrait faire? Elle dit, ben il faut sauver les écoles publiques. D'accord. Qu'est-ce que tu crois que ça va faire? Et puis là, je lui ai donné le Harvard Yard. tu voulais qu'ils sachent que même si on sauvait les écoles, c'est pas, c'est peut-être dans le sens de là que ça vient le problème. Parce que là, les gens, quel genre d'éducation est-ce qu'on reçoit à l'école aujourd'hui? Genre la théorie monétaire, c'est la théorie qu'on apprend à l'école, même si ça n'a pas fonctionné dans les dernières 40 années, c'est en train d'échouer enfin devant nous. Mais c'est quand même ça qu'on apprend encore aujourd'hui. Et en science, mais qu'est-ce qu'on apprend? Mais c'est Newton. Pourquoi est-ce qu'on apprendrait un apprenti sorcier alors que c'est Kepler qui a découvert la gravitation universelle? Donc, oui, ça prend des écoles. Je suis pas contre les écoles. Je veux que les gens apprennent. Je veux que les gens soient dans le processus et ils vont apprendre. Mais il n'y a pas de solution dans l'école en tant que telle. Il va falloir trouver d'autres choses. Il va falloir aller à un niveau supérieur parce que c'est pas l'école en tant que telle qui a détruit l'économie. C'est beaucoup plus une manière de penser qui a détruit l'école, qui a détruit l'économie, qui a détruit la science, qui a détruit tout ça. Donc on voit, quand on roule aux alentours de Détroit, on voit tous des gros bâtiments qui sont complètement... sont barricadés. Il n'y a plus personne qui vit dans ce quartier-là. Puis, la semaine dernière, il y a eu un spécial dans le journal de Détroit où ils affichaient justement le nombre de saisies qui ont eu lieu dans le comté où je me trouve. C'est le comté de Warren. Et puis, il y en avait pour, si on parle en tant que tel, j'imagine les gens ont une certaine idée de la presse. Mais les cahiers, la presse, tenez un cahier du dimanche, c'est quand même volumineux. C'était à peu près 3/4. Donc le 3/4 d'un journal La Presse du dimanche était des noms des endroits, des bâtiments qui avaient été saisis depuis le début de l'année. Donc ça donne une idée aux gens de qu'est-ce qui se passe ici. Et puis ça, c'est cette année, c'était le double de l'année passée. Puis s'attendre encore à une augmentation. Je ne sais pas la prévision, si c'est le double encore, mais s'attendre à une augmentation pour l'année qui s'en vient, l'année qui va commencer dans un mois. Donc, moi, c'est assez troublant, en fait, de voir la situation ici. Je ne veux pas vous donner de détails ailleurs, mais je sais que des fois, il n'y a pas la seule place où ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Avez-vous des questions?
Concernant l'assassinat d'Obama, si vous voulez. J'ai une question. Comment on peut empêcher l'assassinat d'Obama?
Une bonne question. J'ai fait un signe ici. J'ai fait un signe avec lequel on déploie ici à Détroit qui montre justement les présidents que j'ai mentionnés dans la présentation. On montre les présidents Kennedy, Garfield et tous les autres. Et on dit, mais pourquoi les Britanniques veulent tuer Obama? Et on essaie justement de voir quelle est la réponse de la population, parce que c'est pas tout le monde qui lit le London Times. Donc, c'est pas tout le monde qui sait quel genre de menace et d'où ça vient. Mais c'est ça qui est crucial. Puis en ce moment, la bataille qu'on est en train de mener, c'est justement, ben, Obama, LaRouche est prêt à le conseiller s'il veut faire de bonnes choses. Maintenant, il va falloir qu'il devienne sérieux. S'il veut devenir président américain, il ne peut pas mourir avant l'inauguration. Il n'a jamais été président, sinon. Donc l'idée, c'est, de son côté, Obama est en train de faire différentes erreurs, dans le sens que même les gens autour de lui, dans son équipe de sécurité, lui disent de mettre un gilet pare-balles, et il ne le fait pas. Les gens, la sécurité autour d'Obama, lui disent peut-être qu'il devrait limiter, en fait, ce serait suggérer que tu limites tes présences en public. Donc, les cocktails, les conférences, tout ça. Peut-être qu'on devrait attendre après l'inauguration. Jouons un peu le low profile pour jusqu'au 20 janvier. Et puis après ça, tu pourras faire plus de meetings publics et tout ça. Tu pourras aller parler aux gens. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une menace. On ne sait pas si ça sera directement Obama, mais c'est lui qui est pointé. Parce que, clairement, si, et ça les Américains comprennent, si Obama était assassiné, là, c'est le pays qui explose. Et ça, tous les Américains comprennent ça. Parce que tous ceux que j'ai parlé. Et même s'ils ne sont pas au courant des attaques contre Obama et tout ça, après y avoir pensé une seconde, ils comprennent quel genre d'ampleur ça pourrait prendre si jamais un événement comme ça arrivait. Donc, la question, comment on arrête cet assassinat-là, ben, il faut, comme LaRouche l'a fait, il faut dénoncer les Britanniques dès le départ. Il faut dire, mais si Obama joue le jeu des Britanniques, il va se faire descendre. Ben, ce serait mieux si, justement, il décidait de prendre un côté. Et puis dire, ben, on va se battre pour le bien-être général de la population. Là, au moins, même si là, il serait directement l'ennemi des intérêts financiers britanniques, internationaux, au moins là, on saurait pourquoi Obama. Ce serait plus clair dans l'idée, dans la représentation populaire, ce serait plus clair. Pourquoi il y aurait quelque chose qui se passerait autour d'Obama. Maintenant, en ce moment, Obama est simplement un pion. Il est en train de jouer un peu, il est en train d'accepter les gimmicks de Paulson. Il n'est pas obligé, quand il va devenir président, de nécessairement aller avec les plans de renflouement et d'hyperinflation que Paulson est en train de proposer. Mais simplement de jouer cette partie-là, le rend complètement inutile en tant que président américain et en tant que pion de l'Empire britannique. Il est complètement inutile. L'idée de l'Empire britannique, c'est de détruire les États-nations, donc de détruire les États-Unis. Et donc, s'ils veulent vraiment faire ça, ils vont pas prendre Obama. Ils vont s'arranger justement pour s'en défaire et puis créer le chaos. Pour qu'à ce moment-là, une personne plus près de leur intérêt serait prête à carrément installer des mesures d'austérité sur la population américaine. Donc, l'idée, c'est vraiment de pointer, de dire, ben, on sait qui on veut à Obama, on sait pourquoi, c'est pas parce que Obama est nécessairement le Messie. Mais c'est parce qu'on est dans une crise financière mondiale qui n'a jamais eu autant d'ampleur, historiquement. Et donc il faudrait vraiment déjà là se brancher sur ce qu'il veut faire à propos de ça. Donc, c'est ma réponse.
Ok.
C'est comme ça qu'on a organisé jusqu'à maintenant.
C'est que nous, on a fait, ça fait deux jours, on est allé avec Meredith, et avec Luke et Birgit en Ottawa. Et aussi, on a laissé la documentation pour tout le ministère canadien, le paquet de littérature. Et dans ce paquet, on a inclus l'avertissement pour l'assassinat d'Obama.
Ouais.
Parce que, comme tu sais, beaucoup d'opérations contre les États-Unis, ils ont son origine ici au Canada. Et on trouvait que c'est important d'intervenir en... Et j'étais cette documentation dans le milieu de cette discussion qui nous permettra en réalité peut-être pour empêcher cet événement.
Oui. Bonne idée.
Yeah.
Est-ce qu'il y a une idée de la signification de le appointement de Paul Volcker.
Ben.
Parce que il n'est pas un bon choix, n'est-ce pas?
C'est un dinosaure.
Un quoi?
Un dinosaure.
Un dinosaure.
Dinosaure.
Oh, dinosaure, yeah. Mais il est un dinosaure spécifique, n'est-ce pas? Isn't he part of the Trilateral Commission?
Oui. Oh,
yeah.
Oui, c'est pas un Shih Tzu, en effet, c'est pas un... Mais je sais pas, en fait, je veux dire, j'ai certains préjugés, mais l'idée c'est que... Ouais, si Obama ou si peu importe qui le conseille sur quoi que ce soit n'est pas en train de discuter la crise et d'amener les idées de la roche, ben ils sont en train de se tirer dans le pied. Donc que ce soit Walter ou d'autres, ça ne marchera pas. C'est ce que moi je vois en ce moment, c'est que lui ou un autre, qu'est-ce que ça a changé? Il s'est pas montré compétent la première fois.
Mais aussi Volcker, ce sera juste une conseillère, ça va pas être le secrétaire de Trésor, n'est-ce pas?
C'est ça que j'ai entendu.
C'est-à-dire,
c'est pas tellement. Je suis pas nécessairement au fait de tout ce dossier-là, mais c'est ce que j'ai entendu dire.
Bon, mais ça,
j'ai essayé de suivre le plus possible, mais c'est long. La marche est longue quand justement les quadrillons vous mènent du soleil à Jupiter.
It's a long walk when the quadrillions of derivatives reaches till Jupiter and beyond.
Demandez à Bob pour ça.
Yeah.
Bob a fait le calcul.
This is the equivalent of the Kennedy space program.
In reverse.
Donc, sinon, à Détroit, côté travail intellectuel, qu'est-ce que vous faites de ce temps-ci?
Ah, d'un côté, travail intellectuel, moi, je suis en train de travailler, on a formé un petit groupe, et je suis en train de travailler sur, dans le dernier papier que la Roche a écrit sur la nature de l'Empire britannique, EIA orange avec, je sais pas si vous l'avez avec vous, mais le EIA orange avec le prince, le roi Édouard VII, qui chasse le tigre dans l'Inde, il y avait le papier de Larouche où il référence Rosa Luxembourg. Puis donc, je me suis fait une copie ici de Rosa Luxembourg, l'industrialisation de la Pologne. Et là, je suis en train de travailler là-dessus avec un groupe ici. On est en train de revoir, mais c'est étant donné les découvertes scientifiques dans le domaine économique de la Roche, que vous pouvez retrouver dans, dans son livre So You Wish. Étant donné ça, pourquoi ou quelle importance est-ce que Rosa Luxembourg, quelle importance est-ce qu'elle a, étant donné les recherches que la Roche a fait et les nouvelles percées qu'il a fait dans la science économique, pourquoi faire référence à Rosa Luxembourg au niveau historique et économique? Au niveau historique, c'est plutôt parce qu'elle avait justement pointé à la cause, le problème de l'Empire britannique. Elle avait compris que ce n'était pas juste une question de classe, mais c'est une question de l'Empire britannique, de l'impérialisme venant de la Grande-Bretagne. Puis au niveau économique, mais comment, étant donné cette percée-là qu'elle avait faite, et Jean Jaurès en France, comment est-ce qu'on peut interpréter ça au niveau des découvertes de la Roche? Donc on est, ça c'est un projet un peu, c'est laborieux, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qu'on est en train de traiter pour essayer de voir vraiment pourquoi est-ce que la Roche a fait cette référence-là, pourquoi il a mis tant de l'accent sur elle pour organiser en fait les Russes aussi, organiser la discussion autour du nouveau Bretton Woods avec les Russes sur la question justement de la différence entre le Rosa Luxembourg et Lénine. Parce que Lénine, lui, n'avait pas compris la question de l'Empire britannique. Bon, peut-être qu'il l'a compris, mais sur le temps. Et donc, elle avait déjà cette notion-là. Donc, ça, c'est une chose, au niveau historique, économique, on est en train de travailler là-dessus. Au niveau scientifique, ben, c'est clair. On est arrivé au livre 5 de l'harmonie du monde. Bon, on a commencé à Montréal le livre 1. J'imagine que tu t'en rappelles, Luc.
Oui.
Et que ça te donne pas des cauchemars. Mais c'était un... Les premiers livres sont plutôt sont laborieux, ça prend du temps aller à travers toutes les constructions. Le livre 1, les figures, 2, les solides. Et puis moi, ben, quand on est arrivé à Détroit, Jean-Philippe et moi, les groupes ici étaient déjà rendus dans le livre 3. Donc on a sauté dans le livre 3, puis le livre 3, c'est la musique. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on a... on a un bon monocorde ici. J'essaie d'en faire un pour en ramener un à Montréal. Mais il y a vraiment une bonne... c'est un bon design. Puis, ça aide vraiment à comprendre, en fait, Kepler, le travail qu'il a fait à essayer de déterminer les agencements entre les tons, les semi-tons et tout ça, à développer un système harmonique. Un système en fait, harmonieux pour composer de la musique. Et là, ben, dans le quatrième livre, là, il s'en va dans... C'est plus une explication métaphysique de pourquoi il a ordonné son livre de cette manière-là. Et aussi, ben, qu'est-ce qu'il voulait... C'est quoi son idée de l'harmonie? Et dans le cinquième, ben là, il s'en va, il retourne dans l'astronomie, il reprend la musique, il reprend tous les concepts qu'il a développés dans le premier livre, dans le deuxième livre, dans le troisième, quatrième. Il met tout ça ensemble. Et puis, vraiment, ben, c'est là qu'il nous fait part de sa découverte fondamentale. Donc, on vient juste de commencer, j'ai pas encore vraiment lu le dernier. Puis je vais avoir à retourner dans le livre 1 et 2 pour finir ce qu'on avait commencé là. Mais là, c'est là où on est rendu. Puis j'espère que les gens connaissent le site internet que aussi un site qui est vraiment très, très développé pour genre aider à la lecture de l'harmonie du monde de Kepler. Donc c'est www.wlym.com.
Ça, c'est le site. Je crois que je te l'ai montré. Tu as vu ceci?
Et en termes de chant, parce qu'on fait aussi, on a commencé à faire plus de chant maintenant. On est en train de travailler sur différentes pièces, des pièces de Bellini, des chants plutôt pour travailler la voix de manière individuelle. Puis aussi des canons aussi politiques. On est en train de se préparer là. Il faut qu'on commence à en proposer plus pour les canons avec les airs de Noël. On n'a pas encore fait ça, mais ça s'en vient.
Ben,
il y a beaucoup de travail. Comment ça se passe de votre côté? Ça chante?
Ouais.
Ça déchante?
Ouais,
oui. Oui, on a chanté. On a fait un concert l'autre jour.
Un concert?
Oui. C'est ce qui se passe à Noël.
C'est un salon.
Oui. Non, ce qui se passe, on chante beaucoup avec Birgit. Les chansons des... London banks are falling down. London banks are falling down. Youpi.
C'est bon.
C'est bon. Good.
I came up with a bit of a tongue twister today in the organizing. Do you know this tongue twister? How many chucks could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Do you know this one?
I heard that before.
Yeah.
I never tried to sing it.
Well, it goes like this. It's not for singing, but it's how many banks could a bailout bail if a bailout could bail out?
Big banks.
How many banks could a bailout bail if a bailout could bail out?
Big banks.
Yeah, exactly. Zero.
If a big bailout could bail out.
That's a good one. We had one sign once which was saying, does daddy's dollar... what was it? Does daddy's dollar save you from... I don't remember the whole thing, but it was really like... It was a funny one. Does daddy's dollar save you from the crash or something?
We need to get the actual one, I think.
Yeah.
This is the. Do you read the last article, Luke?
Oh, I put the Spanish version.
No.
What's that? Which one?
Okay. Okay.
Je pense qu'on va dire au revoir, Pascal.
Yeah.
Ben ça marche. Ben, je suis content de vous avoir parlé ce soir.
Mm-hmm.
Merci beaucoup.
Et